Et bonjour, bienvenue sur RDIWA 107.5, l'émission L'Étoile Polaire. On va parler d'astronomie amateur ce dimanche matin. Premier dimanche de l'année, on vous souhaite une bonne année 2021. J'allais faire des commentaires sur le fait que ça allait bien se passer tout ça, mais j'en sais trop rien, donc on verra.
Pas trop s'avancer.
On va pas trop s'avancer, voilà. En tout cas, nous, on est contents de vous retrouver et de parler d'astronomie avec vous. Dans le studio, on a Pierrick,
salut.
Axel,
oui.
Et Rémi.
Salut.
Alors, épisode 17 de l'Étoile Polaire, le sommaire. Donc, on va commencer comme d'habitude avec le ciel ce soir, présenter un peu les constellations et ce qu'on peut observer à l'œil nu ou au télescope dans le ciel. Ensuite, je ferai un petit point d'astro aujourd'hui sur la spectroscopie, donc l'analyse de la lumière. Ensuite, on aura une petite pièce radiophonique de Louison, un enfant de l'école de Minglon, qui, avec l'aide de Vincent de RDIWA, a imaginé une petite séquence radiophonique qui s'appelle « Un voyage sur Mars ». Donc, on vous fera écouter ça. Après la pause musicale, on aura la chronique spatiale de Pierrick qui nous parlera
de planisphère céleste.
Voilà, pardon, de planisphère céleste. Et on terminera avec la chronique de Rémi sur l'astrophoto, qui va nous parler donc de la photographie des planètes et du traitement d'images correspondant.
Voilà, on va aborder la pratique de l'imagerie planétaire. Qui est différente du ciel profond. On va voir ça.
Ok. Alors c'est parti, Axel, je te laisse la parole pour nous présenter le ciel ce soir.
Oui, le ciel de ce mois de janvier, où les jours commencent à regrandir, le soleil se couche de plus en plus tard chaque jour, mais on a dès le coucher du soleil, alors on va commencer par les planètes, où en ce moment on a donc Mercure, qui est encore visible juste au coucher du soleil, donc vers 17h30, 18h, pas plus parce que c'est très bas sur l'horizon, comme d'hab avec Mercure. Elle est sous Jupiter, qui peut faire un bon jalon pour la repérer, Jupiter qui brille beaucoup. Et en dessous, vous avez Mercure. On a également toujours Mars, qui est très haute dans le ciel, toujours à côté de la constellation des Poissons. Et en ce moment, vous avez même Uranus, qui est à côté de Mars. Alors Uranus, c'est une planète qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, ou alors peut-être avec des très bons yeux et un très bon ciel, parce qu'elle est magnitude 5,7, donc on est vraiment à la limite
ouais.
de ce qui est observable. Par contre, avec des simples jumelles, déjà, vous pouvez vous amuser à la trouver. Je ne sais pas si on a accès à sa couleur typique bleutée aux jumelles. En tout cas, avec une lunette ou un petit télescope, on peut avoir ce petit point bleu, ouais. Uranus. Voilà, et puis alors au niveau des constellations, on a dès la tombée de la nuit au zénith la constellation de Cassiopée. Et puis des constellations qu'on n'a qu'en ce moment, qui se lèvent un peu plus tard, aux alentours de 22h, 23h. On a le Lion, on a l'Eridan qui est assez visible, c'est le meilleur moment pour l'avoir. On l'a presque en entier, c'est une très grande constellation, l'Eridan. Je sais pas si on dit Eridan ou Eridan.
Comme on veut, je pense.
voilà, toujours Orion, qui est magnifique, dans la grande constellation de l'hiver, qui est toujours chouette à jeter un œil. Et puis sinon, je me suis fait un peu la même réflexion que tu parlais là, dans la dernière émission. Hier soir, je sais pas, 19h, là, je cherchais la Grande Ourse, puis je vois une étoile brillante, alors je me dis, ça doit être Arcturus, la Grande Ourse doit être pas loin. Et non, en fait, c'était Vega, qui est très basse sur l'horizon, et le Cygne à côté, avec Deneb, qui se couche assez tôt. Et c'est marrant de changer de repère par rapport à l'été, où elles sont au zénith. Voilà. Et puis voilà, que dire de plus, l'objet que je vous propose d'observer, Amandine en parlait dans la dernière émission où elle parlait de Caroline Herschel. C'est un amas ouvert d'étoiles qu'on appelle la rose de Caroline, parce que c'est elle qui l'a découverte et qui peut faire penser une sorte de spirale d'étoiles et qui peut rappeler un peu, quand on regarde une rose de face, les entrelacements des pétales de la rose. Voilà, une petite spirale d'étoiles. Je la trouve assez chouette. Et donc elle est dans Cassiopée. Si vous voyez Cassiopée comme un W, l'étoile la plus à droite, c'est Caf. Et c'est un petit peu à droite de ça. Vous avez la Rose de Caroline, alias NGC 7789. Okay. Voilà, voilà. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire.
Merci Axel. Alors, on va passer au point d'astronomie, mais juste avant, je voudrais en profiter pour faire une petite annonce par rapport à la rubrique des questions. On a cette habitude dans l'étoile polaire de répondre à des questions. Donc là, en fait, c'est une petite annonce pour vous proposer, si vous qui nous écoutez, vous avez des questions à poser, quel que soit le domaine, hein, bon, connexe aux étoiles, mais ça peut être voilà, sur de l'astronomie, sur de l'astrophysique, sur du spatial ou sur de l'astrophoto. Et que vous avez des questions à poser, vous pouvez nous les envoyer par mail. Donc je vous redonne l'adresse mail de l'émission, c'est astrordwa, donc astrordwa, tout attaché, @protonmail.com. Cette adresse, vous pouvez la retrouver sur le texte de présentation de l'émission. Là, vous avez tous les podcasts sur le site de RDWA. Voilà, donc n'hésitez pas à nous poser des questions, on les recevra et puis on y répondra au cours des émissions. Voilà. Alors, point d'astronomie, la spectroscopie. Alors, spectroscopie, dedans, il y a spectre. La spectroscopie, c'est l'analyse de la lumière. Alors, c'est plus vaste hein, que l'astrophysique. Là, c'est vraiment de la physique. On en fait aussi sur Terre beaucoup, de la spectroscopie, même d'ailleurs principalement. L'idée, en fait, c'est que la lumière qui est émise par un objet, quel qu'il soit, va dépendre, en fait, de sa température, ça, on en reparlera peut-être, mais aussi surtout de sa composition. Alors, on va développer un petit peu ça. Le truc, c'est ce qui nous intéresse beaucoup en astrophysique, dans la spectroscopie, c'est que c'est le moyen principal d'analyse qu'on a pour essayer de comprendre de quoi est constitué l'univers, en fait, de quoi sont constitués les objets qu'on observe. Parce qu'on l'a déjà dit, hein, mais l'humain, il n'est jamais allé plus loin que la Lune. On en a ramené des échantillons, d'ailleurs, même si certains pensent que ce n'est pas vrai. On en a quelques dizaines ou centaines de kilos, dizaines, je pense, de débris lunaires. Voilà. On est allé sur des astéroïdes, chercher un peu des poussières, des choses comme ça, un peu de matière.
Pas des humains, là, du coup.
Là, des robots, machines. Quoi. Voilà, là, les machines sont là, mais toujours dans le système solaire, de toute façon. Mais donc, on n'a aucun moyen d'aller chercher un peu du gaz d'une étoile. Bon, même du soleil, c'est un peu compliqué, mais d'aller pour les autres, c'est encore pire. On ne peut pas aller chercher. On ne peut pas aller prendre un bout d'une exoplanète lointaine, un bout d'une étoile pour essayer de l'analyser, pour savoir ce qu'il y a dedans. Donc le seul renseignement qu'on a, c'est la lumière. C'est tout ce qui nous parvient de ces objets. Alors, de façon plus récente, on a les ondes gravitationnelles, on en avait parlé au cours d'une émission, mais là, on en est vraiment au tout début, hein, de la détection des ondes gravitationnelles. Et en plus, ça concerne vraiment que des objets qui doivent être très, très massifs pour qu'on puisse détecter ces ondes. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas du tout un outil de renseignement pour l'astrophysicien. Donc, il ne lui reste que la lumière. Et donc, cette lumière, ça fait déjà, depuis le 19e siècle, hein, qu'on l'analyse. On a découvert en fait que cette lumière dépendait en fait de... En gros, la lumière dépend de ce qui a émis cette lumière. Alors pour ça, je vais expliquer les phénomènes d'absorption et d'émission de lumière. Donc ça se passe au niveau de l'atome. Alors on a déjà mentionné, un atome c'est quoi ? C'est un noyau constitué de protons et de neutrons, très dense, et autour des électrons, qui sont très peu massifs, sont chargés négativement de façon électrique et qui sont situés autour du noyau. Voilà, l'atome, c'est ça. Le truc, c'est que ces électrons, en fait, ils ne sont pas répartis n'importe comment autour du noyau. Alors, pour faire comprendre tout ça, on fait ce qu'on appelle un modèle planétaire de l'atome. C'est-à-dire qu'on imagine que ce serait comme si le noyau de l'atome, c'était le Soleil, et les électrons, ce seraient les planètes autour. Alors, la réalité, elle est différente, en fait. Parce que dans la réalité, la description qui fonctionne réellement, c'est la mécanique quantique. Et la mécanique quantique, en fait, on peut évoquer, mais c'est... En mécanique quantique, une particule n'a pas une position donnée, en fait. Elle a une probabilité de se trouver dans telle zone autour de l'atome, mais on n'a aucune possibilité de réellement dire où elle est. Donc ça, c'est des choses qui sont peu intuitives et qu'on développera par ailleurs, on ne va pas tout compliquer. Donc là, on fait le modèle planétaire de l'atome où on imagine donc ces électrons, hein, on dit la structure en pelure d'oignon, c'est-à-dire différentes couches d'électrons qui orbitent à des distances différentes du centre du noyau. Donc vous imaginez ces électrons qui sont là. Alors évidemment, ça dépend des atomes. Hein. L'hydrogène, il a un électron. Ensuite, l'hélium, bah, il en a deux. Et après, vous avancez comme ça dans la classification périodique. Et vous avez de plus en plus d'électrons qui sont organisés donc en couches. Le truc, c'est que plus une couche est proche du centre, en fait, plus... A priori, plus elle est énergétique. Donc l'idée, en fait, c'est l'absorption et l'émission de photons, ça correspond au moment où un électron change de couche. Alors, imaginez imaginez un électron qui orbite à une certaine distance du noyau. Il reçoit de la lumière, donc de l'énergie. Il va capter cette lumière, et donc ça va exciter l'électron. Ouais, non, pardon, c'est l'inverse. Il va exciter l'électron, et du coup, l'électron, il va aller sur une couche plus haute. Ouais. Et en faisant ça, il a absorbé le photon, en fait. Donc, il a absorbé de la lumière. OK ? Maintenant, dans l'autre sens, si un électron, il est sur une orbite un peu excitée, il peut perdre un photon, émettre un photon, et redescendre, du coup, sur une couche inférieure. Ça, c'est le principe d'absorption et d'émission des photons. En fait, c'est les électrons qui changent de couche. Donc ça correspond à des niveaux d'énergie différents. Et donc la différence d'énergie, là, c'est le photon qui est émis ou absorbé.
C'est une création ou c'est un...
C'est une émission. C'est-à-dire que le photon n'existait pas. Mais en fait, il y a une conversion directe entre l'énergie et... Alors le photon, lui, il n'a pas de masse. Mais... Ouais, le photon, il est créé.
Ok. Ouais.
C'est de l'énergie pure, en fait. L'électron perd de l'énergie, cette énergie s'évade sous forme de photon. De la même façon, le photon, alors cette fois, il arrive, l'électron, il le capte, et il le transforme en énergie pour lui, et hop, il monte de niveau.
D'accord, ok.
C'est à peu près clair, ça ?
Ouais, c'est...
L'idée maintenant, c'est
rien
que...
Rien se perd, quoi.
De toute façon, en physique, il y a le principe de la conservation, conservation de l'énergie. L'énergie totale, elle doit être constante.
Ouais.
On ne peut pas perdre ou créer de l'énergie, en fait. Ça n'existe pas en physique. Donc voilà, on a ce principe-là de base. Maintenant, il faut rajouter à ça, donc là, une idée quand même qui vient de la mécanique quantique, qui est que ces niveaux d'énergie, ils ne sont pas organisés n'importe comment. Et ils dépendent, en fait, de l'atome. Et donc, résultat des courses. Si, par exemple, vous avez un grand nuage de gaz qui contient de l'hydrogène, qui contient de l'hélium, mais qui peut contenir aussi d'autres éléments plus lourds. Pourquoi pas un peu de carbone qui traîne, pourquoi pas, voilà. Et vous avez, par exemple, une étoile qui est derrière et qui éclaire ce nuage. Qu'est-ce qui va se passer ? La lumière qui vient de l'étoile, elle va passer à travers ce nuage de gaz interstellaire avant d'arriver vers nous. Et donc, en fait, le nuage de gaz, lui, eh ben, les atomes de ce nuage, ils vont venir absorber les photons de l'étoile. Et ils vont l'absorber selon leur propre spécificité d'atome. Donc l'hydrogène absorbe d'une certaine façon, l'hélium absorbe d'une certaine façon, le soufre, tout ce que vous voulez, les atomes absorbent d'une façon différente. Et donc résultat des courses, quand vous êtes sur Terre et que vous allez observer la lumière de l'étoile, vous allez observer le spectre de l'étoile, Alors, le spectre, on a déjà dit, mais je précise, c'est quand même l'étude en fait, de l'intensité lumineuse qu'on reçoit en fonction des différentes longueurs d'onde. On avait expliqué les longueurs d'onde, donc que ce soit dans le visible, entre l'infrarouge et l'ultraviolet. Enfin, ouais, entre, voilà. Il y a aussi l'infrarouge, l'ultraviolet, les rayons gamma, les ondes radio, etc. Tout ça, on avait développé. Donc, en fait, cette lumière qui vient de l'étoile, elle va, vous allez observer en fait, des raies sombres dans cette lumière. Parce que ça va être des, ça va être exactement les longueurs d'onde où les atomes qui constituent le gaz interstellaire vont avoir absorbé la lumière. Donc là, ça, par exemple, ça va nous permettre d'étudier la composition de tel nuage de gaz. Vous regardez l'étoile derrière, vous prenez le spectre et vous voyez qu'il y a des endroits où on observe des raies. C'est très net, c'est vraiment comme un trait noir en fait, sur le spectre de la lumière. Ça, vous avez déjà vu la décomposition en arc-en-ciel avec un prisme, oui. Vous avez quelque chose de continu, ou comme un arc-en-ciel,
oui,
par
voilà,
exemple.
Du rouge au bleu.
Vous avez du rouge au bleu sans discontinuité. Vous imaginez que du rouge au bleu, et puis au milieu, il y a des traits, il y a des raies noires. Ouais. Et ça, c'est des raies d'absorption. Et en fait, en étudiant les atomes sur Terre, on est capable de mesurer les longueurs d'onde et donc les signatures en fait, de chacun des éléments chimiques. Et donc, en regardant ce qui nous manque, où sont ces raies d'absorption, eh ben on en déduit la composition chimique du nuage interstellaire, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps en astronomie. De la même façon, d'ailleurs, c'est quand vous êtes sur Terre, après ça, bon, les astrophysiciens, ils ont l'habitude et ils s'affranchissent de ça, mais vous avez aussi toute l'absorption due à l'atmosphère. Puisque quand la lumière, elle arrive sur Terre, avant d'arriver au télescope, à moins d'avoir un télescope spatial, elle passe à travers l'atmosphère,
ouais,
qui contient de l'eau, qui contient tout un tas de choses, de l'oxygène, de l'hydrogène, etc., et qui va absorber de l'ozone aussi, qui absorbe beaucoup. Et donc, on va observer toutes ces raies. Donc ça, les astrophysiciens, ils savent que ça vient de la Terre, donc ils éliminent l'atmosphère et ils se concentrent sur le reste. Mais d'où l'intérêt aussi d'aller faire des observations spatiales, hein, pour pas avoir toute cette absorption de lumière due à l'atmosphère. Voilà, donc c'est comme ça en fait qu'on fait de la spectroscopie. Dans l'autre sens, on fait aussi des raies d'émission. Par exemple, si vous prenez les lampes sodium, une lampe au sodium, hein, c'est un gaz de sodium en fait qui
c'est une lampe jaunâtre qui éclaire les nos villes.
Tout à fait. Okay. Mais ça, vous pouvez faire un spectre de ça. En fait, vous vous rendez compte que vous n'avez pas du tout la même chose que la lumière solaire. Vous avez pas du vous avez que en fait d'ailleurs c'est jaune orange, vous avez que deux raies d'émission cette fois, c'est-à-dire vous avez un spectre où il y a rien sauf à certaines longueurs d'onde très précises qui correspondent en fait donc à l'émission de lumière, c'est-à-dire à un électron qui passe sur une couche plus basse. Mais si vous avez qu'un seul élément chimique, le sodium, et ben ça va donner juste les raies du sodium. Et si vous en avez plusieurs, vous allez observer les différentes raies d'émission. Donc ça aussi, c'est une façon d'analyser la lumière. Cette fois, non pas en absorption, mais en émission. Et à ce moment-là, vous avez un spectre noir, sauf
certaines
raies très précises qu'on est capable de déterminer, puisqu'on les mesure sur Terre, au repos, dans des conditions tranquilles. Donc on a les bonnes longueurs d'onde, et après, on observe le ciel. Et on peut donc faire des recoupements et de cette façon analyser et comprendre la nature de la matière qui a émis cette lumière.
De quoi est composé l'astre ?
Voilà. Mmh. Et c'est comme ça que les astrophysiciens, en fait, ils déterminent la composition chimique des différents objets qu'ils observent, que ce soit des étoiles, que ce soit des nuages de gaz interstellaires. Après, on peut faire le spectre des galaxies, etc. On fait le spectre de ce qu'on veut, quoi. Évidemment, après, le spectre des galaxies, c'est la somme de plein de choses à l'intérieur de la galaxie. Donc là, vous avez une espèce de moyenne. Bon, c'est pas forcément facile à étudier, quoi. Mais parce que vous ne pouvez pas déterminer la composition chimique d'une galaxie, ça n'a pas de sens.
Ouais,
il y a tellement de choses différentes dedans. Donc, voilà.
Et en étant très précis, ils arrivent aussi à déterminer la composition des atmosphères des exoplanètes.
Ouais.
Si l'exoplanète, vous imaginez l'exoplanète comme une boule, son atmosphère est un peu plus large, comme la nôtre, et au moment où elle passe devant son étoile, la lumière, il y a une petite tranche où la lumière passe dans son atmosphère avant de venir à nous, et à ce moment-là, on peut déterminer la composition de l'atmosphère d'une exoplanète.
Ouais, on
avec
peut faire
cette technique.
Ouais, tout à fait. Et là, en fait, c'est assez intéressant aussi. On peut aussi avoir des informations sur la nature chimique de la surface de cette planète, si elle est solide par exemple. Parce que de toute façon, la lumière qu'on voit à la planète, c'est la lumière de l'étoile qui est à côté.
Oui, c'est ce que j'allais demander. Voilà. Est-ce que ça marche en réflexion, enfin, par exemple, on étudie la lumière de notre soleil, on voit les raies donc, d'hydrogène, des lumières et tout. Et après, si on observe la lumière qui nous arrive de la Lune, qui est donc la lumière réfléchie du soleil, on sait que telle raie vient du soleil, mais s'il y a des raies en plus, ça veut dire que la Lune... Est-ce que ça marche comme ça?
Alors,
on va avoir des raies du...
Des raies, je ne sais pas, mais des zones d'absorption où en fait, on va voir une différence de toute façon entre le spectre de l'étoile et ensuite le spectre de la Lune. Donc forcément, là, la différence, surtout pour la Lune qui n'a pas d'atmosphère, mais c'est forcément lié en fait, à la façon dont la matière qui est à la surface de la Lune absorbe puis réémet, réfléchit la lumière du soleil. Donc tout ça, c'est toutes ces techniques. Évidemment, c'est énormément d'analyse de données. C'est assez complexe, beaucoup de traitements de données. Mais au final, on arrive sur ce principe-là. Donc sur ce principe, en fait, des électrons qui passent d'un niveau à l'autre et qui donc émettent une quantité d'énergie déterminée qui dépend de la nature de l'atome, on arrive à avoir accès à la composition chimique d'objets qu'on ne peut pas aller toucher, qu'on ne peut pas aller prélever. Voilà le principe.
Je pensais, ça peut paraître compliqué. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est complexifié, enfin, surtout précisé, je dirais. Mais c'est quand même spectroscopie, quelque chose d'assez abordable, et notamment Newton, donc en 1700 et quelques, déjà avec son prisme, avait remarqué sur le spectre qu'il projetait sur sa table, ou je ne sais pas où. Il voyait déjà des raies, mais il n'y avait pas forcément prêté attention. Il a fallu attendre quelques dizaines d'années pour qu'il y ait des gens se disent c'est peut-être quelque chose d'intéressant à observer ça. Et à commencer à les classifier, et à voir que ça se répétait, qu'elles étaient toujours au même endroit.
Ça, c'est tout un travail qui a été fait au 19e siècle, principalement. Et qui ensuite s'est affiné, et qui ensuite, avec l'arrivée de la mécanique quantique au début du 20e, on est rentré dans une compréhension quand même un peu plus précise de ça. Et juste pour terminer là-dessus... On a dit, ces niveaux d'énergie, ils sont pas répartis n'importe comment, ils dépendent de la nature de l'atome. Mais dans mécanique quantique, vous avez quantique, en fait, ça vient de quanta, comme quantité, quantum d'énergie. Ça veut dire un petit paquet. Mais un petit paquet qui a une... vous ne pouvez pas avoir des demi-paquets en mécanique quantique. Vous avez des paquets qui ont des tailles données. Donc des niveaux d'énergie qui ont une différence de niveau d'énergie qui est donnée, vous ne pouvez pas avoir entre les deux, en fait. Vous voyez ? Et donc, en fait, l'idée de la mécanique quantique, c'est ça, c'est que tout est quantifié. Les choses ne sont pas continues, elles sont discrètes. C'est-à-dire que vous avez telle valeur, puis une autre valeur, mais entre les deux, vous n'avez rien. Ça, c'est ça l'origine de quantique. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ce sujet. En tout cas, c'est quand même l'outil majeur pour nous, pour analyser les choses, pour essayer de comprendre un peu mieux ce qu'on observe.
Parce que de manière aussi plus simple, à l'œil nu, quand on observe une étoile, on en voit des rouges et des plus bleus.
Là, on rentre sur un autre aspect, ce qu'on appelle le rayonnement du corps noir. C'est-à-dire que... Et là, on rentre en fait sur... j'y consacrerai une autre émission.
Ok, c'est encore autre chose.
Mais l'idée de base, en fait, c'est qu'un objet, il émet un rayonnement qui est lié à sa température. C'est pour ça qu'on dit une étoile rouge, en fait, elle est plus froide qu'une étoile bleue. De la même façon, quand vous avez un bec benzène ou un brûleur à gaz, une flamme ou même une flamme de briquet, au centre, vous avez toujours une partie bleue qui est plus chaude que la partie jaune qui est autour. Donc c'est un peu l'inverse. Sur les robinets, on a l'eau froide, elle est bleue, et l'eau chaude, elle est rouge. En réalité, en physique, c'est l'inverse. Le bleu est plus énergétique que le rouge. Donc, et c'est pareil, le métal chauffé à blanc. Vous prenez un morceau de métal, vous le chauffez, il commence à rougeoyer. Et petit à petit, plus il chauffe, plus il va passer par toutes les couleurs. Il va finir par le bleu et finalement par le blanc.
Ok, ouais.
Ou comme la voûte du four des boulangers, qui devient blanche.
Ah ouais.
Bon, voilà pour ce sujet. je vais m'arrêter là. On va passer à cette petite pièce radiophonique donc de Louison.
Un reportage d'un journaliste en voyage vers Mars.
Ouais, exactement. Donc on vous laisse découvrir ça et on vous retrouve après.
Erdiwa présente une mission sur Mars. Une réalisation de Louison. École de Maglon, décembre 2020.
Pour savoir ce qui se passe dans la fusée, nous allons interroger notre journaliste embarqué à bord de la fusée.
Allô Jimmy ? Jimmy, vous me recevez ? Jimmy, je vous comprends pas.
Oui, c'est pourquoi. Allô.
Jimmy, ici la Terre. On voudrait savoir comment ça se passe à bord.
Bah, pour être franc, ça secoue comme prunier.
J'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez répéter?
Pour être franc, ça secoue comme prunier. J'ai l'impression d'avoir un gorille sur le bide. C'est déjà l'accélération.
Allô, Jimmy. Jimmy, vous me recevez ?
Veuillez nous excuser pour cette interruption. En raison que notre journaliste traverse la thermosphère, les contacts radio sont interrompus pour un moment. Veuillez patienter.
Pour RDIWA, la radio du DIWA. 107.5 FM.
Allô, Jimmy ? Allô ? Jimmy, ça va ? Jimmy, vous attendez ?
Pardon ? Allô ?
Allô ? Jimmy, pouvez-vous nous dire ce qui se passe dans la fusée, Jimmy ?
Ben, c'est que...
Perd son temps, elle s'imagine quoi ?
C'est pour un interview.
C'est que... On a poussé de la montée.
La poussée de quoi? J'ai pas compris. Jimmy, ça va? Êtes-vous en apesanteur?
Presque. Je suis... à la mésosphère.
Est-ce que vous pouvez répéter, Jimmy?
Je suis en mésosphère.
Allô, Jimmy? Allô, Jimmy, vous m'entendez?
Oui, ça y est. Bon, je vais vous parler des missions martiennes, comme convenu.
Curiosity est une astromobile, rover, déployée à Aeolus sur Mars en 2012 via la mission Mars Science Laboratory. C'est un engin particulièrement imposant avec une masse de 899 kg à comparer aux 174 kg pour les astromobiles Spirit et Opportunity.
Allô, Jimmy, vous m'entendez? Jimmy, vous m'entendez?
Peut-être. Oui, j'entends bien.
C'était une mission sur Mars. Une pièce écrite et réalisée par Louison. Accompagnée par l'équipe pédagogique Laurine et Isabelle de l'école élémentaire de Minglon et par Vincent pour Air Diwa, la radio du Diwa.
Eh bien, merci Louison pour cette petite pièce radiophonique. C'est chouette, un enfant qui a envie comme ça de faire un... C'est du travail de faire ça, hein, quand même.
Bah ouais,
ça se fait pas tout seul. Hein.
T'es sûr.
Imaginer tout ça, de le monter, voilà. Donc, merci beaucoup à toi Louison. Et on est content de diffuser ton travail dans notre émission. On espère que vous aurez apprécié. D'ailleurs, ça me fait penser que vous qui nous écoutez, si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, bon, en lien avec les étoiles de préférence, et dont vous voulez venir discuter à la radio, on est ouvert à toute proposition. Donc là encore, contactez-nous par mail astroerdiwa@protonmail.com. Voilà.
Après, pour les sujets qui ne concernent pas les étoiles, vous pouvez venir aussi à la radio, il y a d'autres émissions, vous serez accueillis quand même.
Voilà. On va passer à la pause musicale. Donc là, Rémi, tu nous as concocté un petit morceau.
Ouais, un petit morceau planant de Funkadelic qui s'appelle Maggot Brain.
C'est parti.
Mother Earth is pregnant for the third time. For y'all have knocked her up. I have tasted the maggots in the mind of the universe. I was not offended, for I knew I had to rise above it all or drown in my own shit.
Thank you.
Et bon retour dans l'étoile polaire, 107.5 RDIWA. On va continuer donc cet épisode 17 avec la chronique spatiale de Pierrick. À toi la parole, mon ami.
Merci Fred. Et oui, donc on va parler de planisphère céleste, donc de carte de notre ciel étoilé, de notre univers. Plus scientifiquement, d'astrométrie. Donc je vais vous parler du satellite Gaïa, donc un satellite lancé par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, en 2013, et qui, dernièrement, là, en décembre 2020, a fourni une carte du ciel la plus précise et la plus complète jamais réalisée jusqu'à maintenant. Donc c'est quand même un sacré truc, je trouvais ça sympa de vous en faire part dans cette émission. Donc ce satellite a mesuré les caractéristiques des objets célestes, alors des étoiles, des astéroïdes, même de galaxies, et on a recensé 1,8 milliard d'étoiles, et avec ça a formé une carte tridimensionnelle, donc elle est disponible sur Internet, c'est une belle carte qu'on peut consulter. Et donc le satellite Gaïa a mesuré les étoiles jusqu'à la magnitude 20, donc c'est pour ça qu'il en a trouvé beaucoup. Et bon, ça paraît énorme comme chiffre, mais en fait, c'est moins de 1% des étoiles de notre bonne vieille Voie lactée, de notre galaxie. Donc au final, c'est énorme, mais à l'échelle de l'univers, une fois encore, c'est rien du tout.
J'ai juste un petit rappel, hein, c'est que toutes les étoiles qu'on voit dans le ciel la nuit appartiennent à notre galaxie. Et qu'ensuite, les autres galaxies sont quand même beaucoup plus lointaines, on peut les observer. Mais toutes ces étoiles-là, elles appartiennent à la Voie lactée, notre galaxie. Et donc là, ce dont tu parles, c'est une cartographie de notre galaxie.
Oui, bien sûr. Ouais.
Même de notre entourage proche.
Très proche, oui. Alors, selon les théories, c'est que la Voie lactée, elle est, c'est une galaxie en spirale, avec des espèces de bras autour d'un espèce de noyau. Et que nous, on se situerait, notre système solaire, notre Soleil et la Terre se situeraient dans dans le bras, un peu à l'écart du centre de la galaxie, même bien à l'écart, je crois, quand même.
Pauvre banlieue, quoi.
Ouais, en banlieue lointaine du centre. Et qu'on serait dans un de ces bras, là, qui sont à l'extérieur, et que le satellite Gaïa aurait fait la carte d'un petit bout de ce bras, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai compris, en tout cas. Et que donc 1,8 milliard d'étoiles, si on prend donc la galaxie, notre Voie lactée contient 100 à 200 milliards d'étoiles. Donc,
je crois que ça monte même à 400 dans les plus hautes estimations.
Ah ouais, c'est un chiffre qui est flou encore. Qui est pas...
voilà. C'est difficile à estimer puisqu'on n'a que notre position pour observer.
Ouais, est-ce qu'il y a de l'autre côté de nous,
la galaxie pour la voir dans son entièreté et...
Puis tout ce qui est de l'autre côté par rapport au centre de la galaxie, on ne peut pas voir parce que c'est trop dense en étoiles. En fait.
Ouais.
Donc de toute façon, l'ordre de grandeur, c'est 100 milliards. Oui. Après que ce soit 50, 200, bon voilà, c'est sûr qu'on peut affiner, mais l'ordre de grandeur, c'est 100 milliards.
Ouais. Okay. Donc par exemple, pour comparer une petite carte classique du ciel comme on a nous, qu'on fait tourner là, notre disque, c'est entre 300 et 800 étoiles. Voilà.
Donc nous, on peut observer jusqu'à la magnitude 6 dans les meilleures conditions à l'œil nu.
À l'œil nu, ouais.
Avec les télescopes amateurs, déjà, aller chercher la magnitude 12, ça devient technique. Au-delà, c'est pas accessible aux amateurs. Donc là, tu parles de magnitude 20.
Ouais.
Donc on rappelle, plus la magnitude est haute, plus l'objet est faible.
Ouais. Ouais. Ok. Et donc aussi, ce satellite, il a aussi trouvé 120 000 étoiles comparables au Soleil. Et donc ça, je trouve que c'est un chiffre intéressant, parce qu'on en revient à l'équation de Drake, dont on avait parlé une fois. Pour rappel, c'est une équation qui prend en compte toutes les données, les paramètres, pour essayer de trouver de la vie dans l'univers. Et le fait d'avoir des étoiles comparables à la nôtre, c'est potentiellement un endroit où, possiblement, il y aurait peut-être de la vie comme nous. Alors évidemment, c'est la vie comme nous, on la conçoit, mais comme on n'a que ça comme référence... Dans ce base
c'est facile de chercher ça. Mais du coup, ça fait pas tant que ça, 120 000 sur presque 2 milliards.
Ouais.
C'est déjà pas mal, je
trouve. Sur 1% de la galaxie.
Oui.
Donc voilà, petit à petit, on affine l'équation de Drake. Bon, voilà, peut-être un jour, on trouvera un résultat. Et ce satellite a trouvé aussi qu'il y avait 50 galaxies, des petites galaxies, des micro-galaxies qui orbitent autour de notre Voie lactée. Et voilà, donc c'est beaucoup de choses découvertes grâce à ce satellite. Et donc une carte du ciel, si je reviens un peu plus en arrière dans notre histoire terrestre. Et ben, en gros, il y a 3000 astres visibles à l'œil nu dans le ciel. Et la première carte qu'on pense que c'est une carte du ciel, c'est le disque de Nebra en 1600 avant Jésus-Christ, qui a été découvert en Allemagne. Donc ça, on suppose que c'est la première carte du ciel. Bon, après, il y a plein de théories autres sur les pyramides, etc. Voilà, le premier vrai écrit dont on est sûr, c'est la carte de Ptolémée en 1022, qui a recensé 1022 étoiles, pardon. Carte de Ptolémée, le grec, donc en 400 avant Jésus-Christ, un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Et aussi l'astrolabe des navigateurs portugais au XVe siècle, qui était un moyen pour eux de se repérer dans la Terre. Donc voilà, ça c'était les premières cartes du ciel. Et là, donc, on en a une dernière, énormément plus complète, grâce à ce satellite Gaïa. Donc, je vais parler un peu de ce satellite aussi. Donc, il est situé au point de Lagrange. Fred, tu peux nous expliquer le point de Lagrange ?
Le point de Lagrange, c'est des points d'équilibre gravitationnel. C'est-à-dire le point de Lagrange entre la Terre et la Lune, par exemple, c'est l'endroit où l'attraction, l'attraction terrestre et l'attraction lunaire se compensent.
C'est un point d'équilibre
Un point d'équilibre, ouais. Voilà.
Okay,
et donc, il y en a plus. Dans le système solaire, il y a des points de Lagrange, des endroits où en fait, les interactions gravitationnelles elles s'annulent.
Ouais.
Donc c'est des endroits qui sont particulièrement stables pour poser pour placer un satellite ou une sonde, quoi.
Pour chaque objet, il y a, je crois, 6 points de Lagrange. Mmh. On parle de L1 à L6.
Mmh. Et ben là, il est sur L2. Donc il est situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, à l'opposé du Soleil. C'est-à-dire qu'il y a le Soleil, la Terre et le satellite Gaïa qui est plus loin sur le même axe. Donc en fait, de cette manière, il est protégé de la lumière du soleil, en partie. Il est dans l'ombre du soleil, pour que la lumière du soleil ne gêne pas les mesures des étoiles.
La Terre lui sert de bouclier, de visière. Quoi.
C'est ça. Et en plus de ça, ils ont installé un pare-soleil qui fait à peu près 10 mètres de diamètre autour du satellite pour encore plus le protéger des rayons solaires. Mais du coup, ça a posé un problème parce que... Il y a eu de la glace qui s'est mise. Il y a un problème de lumière parasite, en fait, qui ne savent pas trop d'où ça vient. Alors, il y a peut-être de la glace qui s'est formée sur des lentilles, sur les instruments de mesure. Et donc, pour pallier ce problème, ils ont décidé de changer un peu l'orientation du satellite pour qu'il soit un peu plus incliné vers le soleil, mais ça n'a pas vraiment marché. Du coup, la manière la plus simple, ça a été dans les instruments de mesure, de prendre en compte, par des ordinateurs complexes, de prendre en compte ce problème et de le modifier au traitement, en fait. Donc, voilà. Et donc, en 5 ans, il a envoyé 100 téraoctets de données sur la Terre. Et il y a à peu près 6 universités dans le monde qui décryptent toutes ces données. Parce que ça fait quand même pas mal de choses, même si 100 téra... Ça fait beaucoup, mais pas non plus énorme. Donc voilà, la première grande carte du ciel qui nous arrive. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur internet, c'est une belle photo.
Oui, les photos qu'ils en ont tirées sont chouettes.
Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, sa mission au satellite, elle n'est pas finie. Il va continuer à observer et à produire une autre carte dans quelques années. Il y aura encore d'autres cartes.
Encore plus détaillées.
Ouais, plus précises. Donc voilà, on affine de plus en plus notre compréhension et notre compréhension de l'univers. Quoi, voilà.
Merci voilà. Pierrick.
Ouais, avec plaisir.
On va passer à la dernière partie de cette émission avec toi Rémi, qui va nous parler d'astrophoto.
Voilà, oui, on va aborder la pratique de l'astrophoto en planète Terre. Donc dans les émissions précédentes, on avait abordé l'astrophoto du ciel profond qui consistait à imager... tous les objets interstellaires, donc en dehors de notre système solaire, donc les nébuleuses, les galaxies, et autre amas d'étoiles. Et du coup, le planète Terre, ça consiste à imager tout ce qui est dans notre système solaire. Donc, à commencer par la Lune, c'est la cible favorite, majeure, quoi. C'est l'objet le plus proche de la Terre. Donc, c'est assez abordable. Ce qui est intéressant dans l'astrophoto planète Terre, c'est le côté facile, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut observer, on peut imager le planète Terre en ville. Il y a des personnes qui ont leur trépied sur leur balcon, dans des appartements, qui peuvent avoir beaucoup de résultats en observant Jupiter, Saturne, voilà, les planètes étant très lumineuses. On n'a pas besoin d'avoir un ciel qui soit vraiment exceptionnel, quoi. On peut se permettre d'être dans une certaine pollution lumineuse, ça ne nous empêche pas de voir.
Ça ne gêne pas pour planètes. La photo, en tout cas.
Pas pour la photo, non. Non, non. C'est-à-dire que le gros problème en planète Terre, étant donné que les objets sont proches, c'est la turbulence atmosphérique. C'est-à-dire que c'est un phénomène un petit peu comme quand on a un radiateur en hiver et qu'on regarde au-dessus, l'image bouge. Ou alors sur une route en été, une espèce de chaleur qui monte et qui fait trembler l'image. Du coup, la différence technique entre l'imagerie du ciel profond, où on avait vu qu'il faut faire des pauses très longues et les accumuler des heures de signal, là, en planète Terre, on utilise des caméras, et donc c'est sous forme de film qu'on va exploiter l'image, c'est-à-dire que ça consiste à avoir le plus d'images possible, mais des images très courtes, c'est-à-dire des images qui subiraient le moins possible la turbulence atmosphérique. Et après, via les logiciels informatiques, on arrive à trier la lumière et trier ces photos pour en garder uniquement les parties qui sont exploitables, les parties qui ne sont pas trop déformées. Et donc, à partir de là, on arrive à avoir des détails assez impressionnants, quoi, sur des images, que ce soit de la Lune ou que ce soit des planètes, en accumulant plusieurs milliers d'images, mettons entre 2 et 5 000, qui vont correspondre à un temps de film de 2 à 5 minutes. Là, on va pouvoir vraiment voir les détails, voir les couleurs des planètes. On peut utiliser des filtres aussi pour faire ressortir les couleurs. Par exemple, les strates de Jupiter, on voit très nettement les différents détails. Et donc, notamment là, sur la conjonction, la grande conjonction qu'il y a eu.
Qu'on a bien ratée.
Oui.
Voilà. Merci les
que
nuages.
Que j'ai annoncé pour rien.
Il y a eu des belles images de par le monde qui sont arrivées. C'était quand même assez complexe d'imager ça. C'est-à-dire que la planète Jupiter et la planète Saturne étaient vraiment proches, hein, moins d'un degré, il me semble. Ouais. Et il y a vraiment des belles images qui sont ressorties avec les satellites naturels respectifs des deux planètes. Donc du coup, c'est une composition d'images qui est assez technique, dans le sens où, pour avoir les satellites visibles sur l'image, il faut capter beaucoup de lumière, alors que les planètes, on n'a pas besoin de capter autant de lumière si on... Donc c'est un assemblage assez méticuleux pour qu'il y ait tout le monde qui ressorte à l'image voilà, entre les deux géantes gazeuses. Et que dire, en astrophoto planète Terre, il y a des petits jeux qui sont sympas. Il y en a qui s'amusent à imager des transits de satellites. Donc notamment sur Jupiter, c'est assez flagrant. On peut voir le satellite qui passe devant la planète, son ombre qui est disposée dessus. Voilà, il y a
avec des satellites artificiels aussi, des photos de, il y en a qui s'amusent à photographier quand la station spatiale internationale passe devant la Lune, par exemple.
Ouais. Devant la Lune,
devant le Soleil.
Ou le Soleil, ouais. Il y en a qui arrivent quand la station spatiale est bien éclairée. Il y en a même qui arrivent sur le fond noir, quoi, ouais. À avoir des détails. C'est assez impressionnant parce que on ne peut pas avoir de suivi qui se cale sur la station internationale. Donc
elle traverse le ciel en 3 minutes au maximum.
Bah, vite, ouais.
Pas très vite, autour de 20 000 km/h. Et elle est relativement proche. ça oscille, mais c'est autour de 400 km de la surface.
C'est ça.
Donc ça, c'est une pratique intéressante, mais c'est vraiment à la volée, quoi. C'est une maîtrise du mouvement de l'instrument à la main, quoi.
Moi, j'ai une question, comme tu parlais de la conjonction. Est-ce qu'en termes de mise au point, étant donné que les planètes ne sont pas à la même distance de nous, ça change quelque chose? Ou est-ce que dans tous les cas, c'est mise au point à l'infini et...
Oui,
pour avoir net point, les deux planètes. Tu vois,
c'est mise au point à l'infini, c'est-à-dire qu'on est sur une distance qui est telle qu'il n'y a pas d'incidence sur la mise au point. Après, la mise au point est relativement difficile en planète Terre, étant donné qu'on va chercher des forts grossissements. On va chercher plutôt à utiliser des instruments avec des grandes focales autour de 2000, même plus. Pas forcément avec des grandes ouvertures, mais des instruments qui ont vraiment des grandes focales. Donc la mise au point est assez précise, assez fine, et le suivi aussi. C'est pour ça que la technique du film avec une multitude d'images courtes est assez propice aux planètes Terre. Donc ça s'utilise... Soit on utilise une caméra planète Terre, une caméra dédiée, ou on peut aussi utiliser des appareils photo qui ont une fonction vidéo. C'est relativement abordable, l'imagerie planète Terre est assez satisfaisant, je dirais. Donc y a Mars en ce moment qui est hyper visible, qui est assez haute dans le ciel.
Est-ce que t'as profité de son opposition le 23 octobre, moment où elle était au plus proche?
Elle était vraiment brillante.
Pour faire des...
Cool. Non, c'est... Il y a des moments comme ça à pas rater. C'est bien. En ce moment, nous, on a Jupiter et Saturne qui sont plutôt visibles en été. Donc c'est assez difficile du fait qu'elles sont basses sur l'horizon. Donc il y a une grande partie de l'atmosphère à traverser. C'est assez turbulent, mais ça se fait bien. Vénus aussi, on peut observer, imager, suivant les positions où elle est, quoi, au lever du soleil. Voilà, les croissants, c'est impressionnant.
Le Vénus, on n'a jamais accès à sa surface.
Non.
On peut pas. L'atmosphère est trop dense, ça diffuse trop de lumière, on ne peut jamais observer sa surface, en fait.
Et après, il y a des cibles planètes Terre comme Uranus et Neptune qui sont un peu plus complexes, disons, mais il y en a qui arrivent à imager en amateur Uranus, on laisse apercevoir les anneaux. C'est assez rare, mais ça se fait. Neptune, on peut voir aussi les pôles. C'est des objets qui sont relativement loin, tout de même.
Oui.
Voilà, ce qui est pour le planète Terre. On vous encourage vivement à observer et à y imager dans la mesure du possible.
Et bien, merci Rémi.
Bon, on peut rappeler qu'on peut découvrir tes photos sur les podcasts qui accompagnent, qui illustrent les podcasts sur le site de Radio Diwa.
Depuis deux émissions et ça va continuer. Et bien voilà pour cet épisode 17. On espère que ça vous aura intéressé.
N'hésitez pas à nous envoyer des questions sur astro.rdwa@protonmail.com.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Tout à fait. Des questions, des commentaires, des suggestions. Enfin, si vous voulez interagir avec nous, c'est le moyen de le faire. On vous encourage à observer le ciel. Ça, au moins, c'est quelque chose qu'on ne nous enlèvera pas. Passez une bonne semaine.